Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM sur le 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Ravi de vous retrouver à nouveau. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le Nigeria a ordonné de distribuer des réserves de céréales à sa population, la Russie va rouvrir deux ambassades en Afrique et un ex-analyste de la CIA qui qualifie la contre-offensive ukrainienne de massacre. Le général Chiani a pris le pouvoir au Niger. Un activiste nigérien analysera les causes de ce changement politique ainsi que la situation sur place à notre micro. L'accord céréalier a expiré le 18 juillet. Un membre de l'Association des engrais d'Afrique proposera des pistes pour un autre modèle de coopération internationale. Le salon annuel de l'agriculture et du commerce s'est ouvert à Lusaka. Un représentant des entrepreneurs russes exposera les technologies qui peuvent aider l'Afrique à assurer sa sécurité alimentaire. Le Bénin a pris son indépendance le 1er août 1960. Un historien béninois reviendra sur cette date et sur ce qui a changé dans la vie des Béninois. Face à la hausse des prix alimentaires et énergétiques au Nigeria, Abuja a pris une décision forte. Le président nigérien, Bola Tinubu, a annoncé la distribution de 200 000 tonnes de céréales à la population sur tout le territoire national. Les agriculteurs bénéficieront également de cette aide du gouvernement. 225 000 tonnes d'engrais et de semis seront livrées par les autorités aux agriculteurs engagés dans le Programme national de sécurité alimentaire. Le président nigérian a expliqué cette démarche par la période économique difficile traversée par sa population. En outre, il a déclaré que 100 milliards de naira, soit environ 130 millions de dollars, seront affectés pour cultiver davantage de riz, de maïs, de blé et de manioc. Pour rappel, le Nigeria recevra prochainement à titre gratuit des engrais de la part de la Russie. Lors du sommet Russie-Afrique, Dmitri Konyaïev, le directeur général d'Uralchem Uralkali, a annoncé que les deux prochains lots d'engrais russes bloqués dans les ports européens seront envoyés au Zimbabwe et au Nigeria. Deux ambassades russes rouvriront prochainement en Afrique. Le gouvernement russe a publié un arrêté le 1er août qui annonce la réouverture prochaine de deux missions diplomatiques au Burkina Faso à Ouagadougou et à Malabo en Guinée équatoriale. Leur réouverture est prévue pour cette année. Cette décision fait suite à une annonce à la presse lors du sommet Russie-Afrique par Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique. Il avait déclaré que Moscou comptait rouvrir des ambassades au Burkina Faso et en Guinée équatoriale, mais aussi que des discussions étaient également en cours pour la réouverture d'une mission diplomatique au Soudan du Sud. Pour rappel, à l'occasion du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine avait dans son discours le 28 juillet dernier souhaité voir la présence diplomatique russe s'élargir sur le continent africain. Actuellement, les fonctions de représentation au Burkina Faso sont assurées par l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire et celles en Guinée équatoriale par l'ambassade au Cameroun. L'échec de la contre-offensive de Kiev est de plus en plus difficile à cacher. Selon l'ex-analyste de la CIA Larry Johnson, l'Occident exige des actions décisives sur le front de la part des troupes ukrainiennes alors qu'elles sont à court de munitions. Résultat des courses, cela transforme de son point de vue cette contre-offensive en un véritable massacre. Monsieur Johnson estime que la situation sur le champ de bataille ne fera que s'aggraver pour l'Ukraine. D'après lui, l'armée ukrainienne n'a pas assez d'artillerie et est privée de soutien aérien. Cela aura pour effet d'épuiser ses réserves en hommes sur le front. Pour rappel, la défense russe a annoncé récemment que plus de 20 000 hommes avaient été éliminés côté ukrainien et que 3 000 équipements militaires, dont plus de 1 200 blindés fournis par l'Occident à Kiev, avaient été détruits. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Prenons maintenant la direction du Niger. Le 26 juillet dernier, des militaires se présentant comme les forces de défense et de sécurité ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tiani, commandant de la garde présidentielle, s'est proclamé chef du pays et s'est présenté en tant que président du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Cet événement a eu une résonance particulière dans les pays occidentaux. Le président français Emmanuel Macron a condamné un coup d'État illégitime et dangereux. Il a en outre assuré que Paris ne tolérerait aucune attaque contre la France et ses intérêts. Les États-Unis, qui disposent d'une importante base militaire au Niger, ont également réagi. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que ce coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. Sur le continent africain, la CDAO a lancé un ultimatum en exigeant le retour à l'ordre constitutionnel ainsi que le rétablissement du président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir, sans quoi elle menace de recourir à la force. Le 31 juillet dernier, les porte-paroles des gouvernements burkinabés et maliens ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils ont prévenu que toute intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre Bamako et Ouagadougou. À Niamey, l'évacuation des ressortissants français et européens a commencé et la réouverture des frontières aériennes et terrestres, fermées depuis le 26 juillet, a été décrétée avec 5 pays limitrophes. Depuis le Niger, pour Spoutnik Afrique, Ibrahim Namayawa, activiste nigérien, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, a analysé les causes qui ont conduit aux événements survenus au Niger. Il a également commenté la situation sur place. Écoutons-le tout de suite. Le général Tiani a affirmé avoir pris le pouvoir en conséquence de la situation sécuritaire dans le pays. Pouvez-vous résumer pour nos auditeurs quelle était la situation au Niger ?
Effectivement, le 26 juillet dernier, l'armée nigérienne a pris le pouvoir. Elle dit être venue à prendre ses responsabilités pour sauvegarder la patrie en mettant fin au régime de l'ancien président Mohamed Bazoum. Effectivement, la situation, elle est là désormais, mais il faut peut-être parler un peu de manière succincte des mobiles ayant conduit à la prise du pouvoir par le CNSP. Et justement, la situation politique au Niger était une situation de crise politique, si vous voulez, parce que effectivement, contrairement à ce que les anciennes autorités du pays vendaient à l'extérieur en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance, c'est qu'à l'intérieur du pays, la situation était une situation, si vous voulez, insoutenable, insupportable. Le peuple nigérien souffrait extrêmement grave des conséquences de la malgouvernance, des conséquences de la mauvaise gestion de l'insécurité. Il y a la mauvaise gestion de la situation économique et sociale du pays. Il y a l'impunité dans le pays accordée au clan de ceux qui gouvernent le pouvoir et leur famille. Et il y a le manque de justice pour le peuple nigérien, il y a la faim pour le peuple nigérien, il y a, si vous voulez, tout un tas de choses difficilement supportables pour un peuple. Et vous n'êtes pas sans le savoir que les forces vives de la nation, à maintes reprises, avaient tenté d'organiser des manifestations de rue, des manifestations de protestation contre les mauvaises politiques publiques édictées par l'ancien régime et les manifestations qui sont sauvagement réprimées, où il y a une interdiction systématique de toute manifestation sur la voie publique, à toute chose qui est et qui relève des libertés, des droits et libertés que la Constitution reconnaît aux citoyens, que la loi reconnaît aux citoyens, mais le pouvoir en place refusait à ce que les citoyens puissent jouir de ces droits et libertés. Et effectivement, la situation était tendue de telle sorte que si même les militaires n'avaient pas intervenu pour mettre de côté les autorités de l'ancien régime, le peuple nigérien, étant dos au mur, était en train de s'organiser pour voir dans quelles conditions les gens peuvent sortir pour chasser le régime de Mohamed Bazoum. Donc c'est dans un tel contexte, effectivement, l'armée a découvert sa mission et elle a décidé de prendre ses responsabilités pour éviter à ce qu'on en arrive là, parce que lorsque c'est le peuple qui va se déchaîner pour essayer de chasser le régime de Mohamed Bazoum, ça peut donner lieu à des situations inconfortables d'instabilité qu'on peut imaginer. Donc, c'est compte tenu de tout ceci, certainement, que le CNSP, avec à sa tête le général Abdourahman Tiani, a décidé de mettre un terme au régime de M. Mohamed Bazoum et de dire au peuple nigérien désormais qu'ils sont là pour lutter contre la mauvaise gestion de l'insécurité, pour lutter contre la mauvaise gestion économique et sociale du pays, pour remettre le pays sur les rails, pour faire la justice, pour créer les conditions de ramener la sérénité au sein de la population population nigérienne au sein de la société nigérienne. Maintenant, le CNSP a pris le pouvoir et vous avez vu, les populations étaient sorties de partout à travers le pays pour essayer de manifester leur soutien au CNSP, pour dire qu'ils sont d'accord, qu'ils accueillent favorablement ce coup d'État et que, en tant que peuple nigérien, ils sont disponibles à accompagner la transition afin que le CNSP puisse travailler à ramener le pays sur la voie du développement, à réinstaller les institutions de la République, à créer les conditions d'une justice sociale et judiciaire, à lutter contre tout ce qu'ils avaient dit qu'ils vont lutter. Et effectivement, maintenant, c'est à ça que le CNSP est en train de s'atteler. Et c'est pas sans difficulté. Effectivement, parce que vous n'êtes pas seul de savoir que le Niger est un État membre de la CEDEAO et des autres institutions internationales. L'autre réalité qui est en train malheureusement de préoccuper les Nigériens, effectivement, c'est comment créer les conditions, effectivement, de se débarrasser des influences extérieures. Notamment, vous n'êtes pas seul de savoir que la France a toujours été la cible des populations nigériennes qui avaient assisté impuissamment à tout ce que la France et son armée a fait endurer au peuple nigérien en installant une base de plus de 1500 soldats sur le territoire nigérien, une base que, effectivement, le peuple nigérien s'est toujours évertué à demander son départ, à combattre son existence sur le territoire. Et ceci a même coûté la vie à des Nigériens. Je parle ici du passage de la force française Barkhane au Niger, qui n'a pas hésité à ouvrir le feu sur des paisibles citoyens nigériens au niveau du département de Tera, occasionnant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, beaucoup de blessés. Et jusqu'aujourd'hui, les Nigériens continuent d'attendre que justice soit faite par rapport à ces dossiers-là. La justice n'a pas été faite parce que l'ancien régime était sous les ordres de la France. Les anciennes autorités étaient totalement aux ordres de la France. Elles n'écoutaient personne que la France. Elles se sont lancées dans la défense des intérêts extérieurs contre les intérêts du peuple nigérien. Et donc, c'était dans ce contexte que le peuple nigérien s'est battu pour demander à ce que les anciennes autorités puissent travailler à sauvegarder la souveraineté nationale et restituer au peuple nigérien sa dignité. Ça n'a pas été possible. Il aurait fallu l'intervention des militaires pour que ceci puisse se réaliser. Aujourd'hui, le peuple nigérien pousse un cri, un ouf de soulagement et radicalise cette fois-ci son exigence de voir toutes les bases étrangères, les bases militaires étrangères installées sur notre pays, quitter les territoires nigériens, à commencer justement par les soldats français. Et effectivement, c'est ça qui a donné lieu à ce que vous avez constaté lors de la dernière manifestation, aux premières heures des manifestations au soutien au CNSP. Après le grand rassemblement, une partie des manifestants s'était retrouvée devant l'ambassade de la France, en brûlant le drapeau de la France pour exprimer leur mécontentement et leur désarroi vis-à-vis de la du comportement de la France officielle, de l'armée française dans notre pays, où la France continue à tirer les ficelles avec des menaces d'intervention militaire, avec des menaces de tout genre. Donc, les populations nigériennes n'ont pas pu se contenir. Elles avaient préféré se retrouver au niveau de l'ambassade de France pour envoyer un message. Et très malheureusement, cette manifestation, la France, à ses habitudes, n'a pas hésité à ouvrir le feu sur ces manifestants, parce que la France considère que les soldats français se considèrent en terre conquise au Niger, et que à tout bout de champ, ces soldats n'hésitent pas à ouvrir le feu sur les Nigériens. C'est effectivement une situation qui préoccupe les Nigériens, parce que vous n'êtes pas seul de savoir que ces situations étaient déjà arrivées dans d'autres pays frères voisins du Niger, tels que le Mali et le Burkina Faso, où la France s'était illustrée à prendre des libertés pour exercer les mêmes mauvaises pratiques de remise en cause des souverainetés nationales de ces États, des pillages des ressources du sol et du sous-sol de ces pays. Et donc, c'est tirant les leçons de tout ceci, en plus de ce que le peuple nigérien endurait dû à l'existence des soldats français sur le territoire nigérien, les Nigériens avaient décidé de tirer les leçons de tout ceci et de demander le départ sans condition des soldats, de tous les soldats étrangers du territoire nigérien, à commencer par les soldats français. Et effectivement, c'est le lieu de rappeler que au Niger se trouvent des bases militaires françaises et américaines, et donc l'avenir de ces bases est connu, parce que les Nigériens ont décidé de prendre leur destin en main. Ces bases et ces soldats étrangers disent être venus de notre pays pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Mais à l'épreuve des faits, on réalise qu'il n'y a rien de tout ceci. On comprend bien que ces pays, ces militaires-là étrangers sont au Niger pour les intérêts de leur pays et pour les intérêts des dirigeants de leur pays respectifs. Et donc, connaissant tout ceci, à l'épreuve des faits, on ne pouvait plus continuer à cohabiter avec des soldats étrangers chez nous qui sont inutiles et inefficaces, qui nous aident à rien, qui ne font que contribuer à endeuiller les populations nigériennes, à endeuiller le peuple nigérien. C'est le moment, vraiment, il est grand temps que tous ces soldats étrangers plient bagages et quittent les territoires nigériens afin que le peuple nigérien puisse retrouver vraiment la voie du salut pour le pays et éventuellement nous aussi prendre notre destin en main. Vous avez certainement constaté que depuis que la situation s'est arrivée, depuis que le coup d'État là était intervenu, on constate la désinvolture avec laquelle la France se permet de faire des communiqués par-ci, par-là, non seulement pour condamner, mais aussi pour faire de la menace d'intervention militaire, annoncer la suspension de ses aides, annoncer l'évacuation de ses ressortissants. Bref, on se demande pourquoi la France se sent obligée de s'empresser à publier des communiqués agressifs contre le Niger, qui est un État souverain, contre le peuple nigérien qui n'a jamais invité la France à être au Niger. Et si la France est au Niger dans le cadre d'une ancienne relation bilatérale.
En 2014, la France et d'autres pays occidentaux n'avaient pas condamné, mais au contraire soutenu le coup d'État en Ukraine. Aujourd'hui, ils condamnent les événements survenus au Niger. Pourquoi ce deux poids deux mesures ?
Effectivement, vous savez, les agissements de la France, c'est cette désinvolture, comme je le disais tantôt, que la France manifeste en nous agressant avec des communiqués vraiment désobligeants, avec des prises de position, des condamnations par-ci, par-là, laisse apparaître clairement le deux poids, deux mesures auquel la France et au-delà les pays occidentaux se livrent à chaque fois qu'une situation se présente en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Nous avons fini par comprendre que désormais, aux yeux de l'Occident, les peuples n'ont pas la même valeur. Les pays n'ont pas la même considération et il n'y a pas le même respect vis-à-vis des valeurs internationales selon qu'on soit dans un pays africain ou selon qu'on soit dans un pays européen. La preuve, c'est qu'en 2014, tout le monde a vu comment la France et d'autres pays occidentaux n'avaient pas pris des dispositions qu'ils sont, comme ce qu'ils sont en train de prendre par rapport à la question de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il condamne sévèrement le coup d'État au Niger, et avant le Niger aussi, la situation du Mali, du Burkina. On voit clairement cette question des deux poids, deux mesures, et où vous avez vu comment ils sont en train d'accorder des aides à l'Ukraine, dit-il, pour lutter contre ceci, contre cela. Mais quand c'est un pays africain, la considération n'est pas la même. Ils pillent les ressources du sol et du sous-sol de nos pays africains. Et même au niveau des pays africains, la considération n'est pas la même selon qu'on soit dans un pays ou dans un autre. Donc, cette politique de deux poids, deux mesures, on la comprend très bien. Et désormais, les choses sont claires. On a vu également la réaction des États-Unis qui dit être disponible à aider les dignitaires de l'ancien régime pour réhabiliter l'ancien président. Mais on comprend bien les raisons de ces agissements de Washington aussi. Vous savez, les États-Unis, tout comme la France, ont réussi à installer illégalement une base militaire américaine sur notre territoire, sur le territoire nigérien. Et à partir de cette base, les États-Unis font des manœuvres pour essayer de contrôler l'Afrique, toute cette zone-là, toute cette partie de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest et un peu au-delà, le Maghreb. Cette base-là est un maillon important de la géopolitique internationale, de la politique géostratégique des États-Unis. Et ils n'ont réussi à l'installer qu'avec qu'au moyen de corruption qui est exercée sur les dignitaires de l'ancien régime. Et donc, ils considèrent qu'une fois ces régimes-là déchus, ça veut dire que le peuple nigérien qui n'a jamais voulu de l'installation de ces bases-là va créer les conditions de départ de ces bases-là. Donc, on comprend bien leur agissement et ils n'ont qu'à se calmer. Plus rien ne va ramener l'ancien régime au pouvoir. C'est révolu cette phase-là. Le peuple nigérien a pris son destin en main et tous ces pays qui collaborent de manière déséquilibrée, de manière malhonnête, au moyen de corruption avec les anciennes autorités nigériennes, vraiment, n'ont qu'à prendre leur mal en patience et rien à faire. Le peuple nigérien va intensifier son combat pour le départ sans condition de tous les soldats étrangers du territoire nigérien. Nous sommes attachés à la souveraineté de notre pays. Nous allons nous battre pour la souveraineté nationale du Niger. Nous allons nous battre aux côtés du CNSP, aux côtés des nouvelles autorités dont le peuple nigérien a accueilli favorablement l'opération de prise de pouvoir, l'opération de coup d'État. Désormais, la situation de l'ancien régime, elle est révolue. Avec le peuple nigérien a décidé d'accompagner les nouvelles autorités et nous allons faire ce combat-là pour remettre le Niger sur la voie de la souveraineté nationale, sur la voie de la prospérité, sur la voie de l'émergence de notre pays. On a vu dans le même élan la CEDEAO qui a fixé même un ultimatum d'une semaine et dit ne pas exclure un recours à la force pour installer les autorités déchues. Bon, on comprend bien, c'est toujours les mêmes manipulations, l'influence de la France sur la CEDEAO, les mêmes manipulations de certains chefs d'État, de certains pays membres de la CEDEAO qui continuent, mais ça ne changera rien. On se demande même quelle est la force militaire avec laquelle la CEDEAO va essayer de s'attaquer au Niger. Quand on sait que la CEDEAO n'a pas une force militaire propre à elle, quand on sait que les textes qui fondent la CEDEAO ne prévoient pas un recours à la force militaire pour dire qu'on va aller contre la volonté de tout un peuple, pour aller agresser un pays, un État membre de la CEDEAO qui se trouve être un État souverain, qui a opéré un choix souverain. On comprend bien aujourd'hui que cette condamnation, ces mesures que la CEDEAO a prises pour ces mesures illégales, illégitimes et inhumaines que la CEDEAO vient de prendre contre le Niger, contre le peuple nigérien, c'est la résultante de la manipulation de la France et de certains lobbies internationaux et c'est aussi la conséquence due au fait que ces chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont peur que ce qui vient de se passer au Niger, qui a déjà eu lieu au Mali, au Burkina et en Guinée, puisse avoir lieu un peu ailleurs dans les autres pays. Et donc, c'est cette crainte, cette peur qui amène ces chefs d'État à penser qu'il faut prendre des mesures inhumaines, sans fondement, contre le peuple nigérien pour dissuader les éventuelles interventions militaires dans ces pays. Or, ça ne changera rien. Le vent de la libération du continent africain a déjà soufflé et c'est irréversible. Le combat pour le parachèvement du panafricanisme, du chantier du panafricanisme est en cours. Plus personne ne pouvait l'arrêter. Tous les pays où les Occidentaux ont réussi à installer des chefs d'État marionnettes qu'ils manipulent contre les intérêts des peuples de ces pays-là vont connaître ces situations de coup d'État pour libérer le pays. Parce que nous les rappelons que Jody Rawlings, l'ancien président de la République du Ghana, l'a déjà dit éloquemment que lorsque les dirigeants écrasent le peuple avec la complicité des juges, c'est à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Et c'est effectivement cette situation qui est en train de se passer sur le continent africain. Et c'est irréversible. Tous les pays où les gouvernants gèrent mal sur le continent africain vont connaître la même situation de coup d'État pour libérer le peuple. Effectivement, vous avez vu déjà, face à l'ultimatum lancé par la CEDEAO, déjà il y a eu un communiqué conjoint des autorités maliennes et des autorités burkinabées et effectivement des autorités guinéennes pour apporter leur soutien au peuple du Niger et aux nouvelles autorités nigériennes. Et dans ce communiqué, ces pays-là avaient réaffirmé leur disponibilité à accompagner le peuple nigérien et à avertir contre toute intervention militaire au Niger qui s'assimilerait à une attaque, à une déclaration de guerre contre le Mali, le Burkina et la Guinée, et que ces pays s'est dit prêts à intervenir pour aider l'armée nigérienne à défendre l'intégrité du territoire nigérien, parce qu'effectivement, une éventuelle attaque militaire contre l'armée nigérienne, contre le Niger, risque d'embraser la sous-région et risque d'avoir des répercussions négatives sur les pays voisins du Niger, qui sont le Burkina, le Mali, et un peu au-delà de ces pays-là. Et effectivement, au vu de ce qu'on connaît déjà, qui est là, la situation d'insécurité grandissante entre ces pays-là. Et dès qu'il y a une autre intervention militaire, il y aura des conséquences graves, des conséquences néfastes et incalculables pour les populations de ces pays. Et donc, c'est à juste titre, c'est de bon droit que ces pays-là ont martelé, ont dit à la face du monde que toute intervention militaire contre le Niger va être considérée comme une déclaration de guerre contre ces pays. Et effectivement, vous avez vu les officiels de ces pays-là ont à d'autres occasions dit à qui veut l'entendre que les pays du la République du Mali, la République le Burkina Faso, la République de la Guinée sont dans une démarche de chercher à créer les conditions d'une fédération entre le Mali, le Burkina, la Guinée et éventuellement d'autres pays. Et donc, la situation du Niger avec le coup d'État, avec les nouvelles autorités, est favorable à cette fédération des pays. Et donc, c'est le moment pour que ces différents pays-là puissent conjuguer leurs efforts, créer cette fédération-là et faire en sorte que des éventuelles adhésions puissent avoir lieu parce que, comme nous le disons tantôt, il y aura d'autres pays qui vont connaître les mêmes situations étant donné que les mêmes causes doivent produire les mêmes résultats dans les mêmes conditions de température et de pression. Effectivement, ce serait une bonne chose que ces pays puissent fédérer leur énergie, créer une fédération pour créer les conditions d'émergence de ces pays, pour que les conditions de la prospérité des peuples de ces pays, et effectivement, vous allez voir que désormais, il va y avoir une consolidation des efforts de multipolarisation du monde, et ce ne serait plus comme la situation d'avance où l'Occident pense être le gendarme du monde. Cette situation-là va être révolue. C'est le lieu de dire aux Occidentaux, à la CEDEAO et aux patrons de la CEDEAO, notamment l'État terroriste français, de mettre un terme à leur intention de vouloir attaquer le Niger, parce que ce ne serait pas sans conséquence, et donc ils ont intérêt à arrêter ceci et à laisser le peuple nigérien jouir de son droit universellement reconnu, le droit à l'autodétermination des peuples à disposer de lui-même, que ce droit-là dont le peuple français et les autres peuples américains et autres jouissent, le Niger aussi doit jouir de ces mêmes droits. Le Niger est un État souverain. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le peuple nigérien a décidé de prendre ses responsabilités, de prendre son destin en main. Si on ne veut pas l'accompagner, on doit lui coller la paix. On doit éviter de s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays souverain. Et la CEDEAO s'est prononcée depuis contre le projet de la fédération entre le Mali et le Burkina, et maintenant ils comprennent bien que effectivement avec la situation du Niger, ce projet-là va prendre forme et effectivement ça va être mis sur pied contre la volonté de la CEDEAO, contre la volonté des chefs d'État de ces pays de la CEDEAO qui sont totalement soumis à la France, qui n'hésitent pas à sanctionner les pays qui sont sur la voie de la libération du continent. Effectivement, ce projet va connaître un élargissement potentiel, un élargissement avec l'arrivée de nouveaux pays comme la Guinée déjà et le Niger aussi qui va venir, et l'architecture géopolitique et économique du Sahel va changer favorablement au profit des peuples africains contre les intérêts de l'Occident, contre les intérêts de la France, et nous sommes convaincus que cette situation-là va permettre au continent africain de connaître un renouveau. Cette situation va permettre au continent africain d'aboutir à la libération totale du continent et créer les conditions de la prospérité et de l'émergence des peuples africains.
C'était Ibrahim Namayawa, activiste nigérien pour Spoutnik Afrique. Il a analysé à notre micro les causes des événements survenus récemment au Niger ainsi que la situation sur place. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. L'accord céréalier a expiré le 18 juillet dernier. Signé en 2022 par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU, il avait pour objectif de garantir les exportations de produits agricoles aux pays les plus nécessiteux. Toutefois, la réalité était bien loin de ce qui était sur le papier. Seuls 3% des livraisons sont parvenues aux pays les plus pauvres et la grande part des céréales est arrivée aux pays les plus riches. Pire encore, les engagements consentis à la Russie n'ont jamais été mis en œuvre malgré les promesses tenues et le mémorandum signé avec l'ONU. Les sanctions contre la Russie continuent d'entraver ses exportations. Pourtant, il faut rappeler que la Russie est l'un des plus grands producteurs d'engrais et de céréales. Et in fine, c'est l'Afrique qui paye le prix de cette politique occidentale anti-russe. En marge du sommet Russie-Afrique, notre correspondante est revenue sur cette situation avec Malik Niang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest.
Vladimir Poutine a annoncé à ce sommet que la Russie envisageait de travailler avec l'Afrique pour assurer la sécurité alimentaire du continent. Et qu'est-ce qui, à votre avis, a mené à ces problèmes en matière de sécurité alimentaire ?
Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, à mon humble avis, on arrive à ce stade d'aujourd'hui parce que tout simplement, pendant de longs moments, pendant de longues années, l'Afrique a toujours été la dernière préoccupation du monde. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des solutions qu'on arrive à trouver pour l'Afrique, ces mêmes solutions-là n'arrivent pas à être appliquées directement. Je pense qu'il s'agit parfois d'un certain nombre de personnes qui se trouvent entre on va dire, les personnes qui donnent réellement les solutions et ceux qui doivent les implémenter. Donc, plus il y a d'intermédiaires, plus la tâche devient difficile d'exécuter, on va dire, le vœu de par exemple, M. Poutine, qui veut quand même aider directement l'Afrique, au lieu peut-être de passer par d'autres personnes, ce qui est peut-être ce qui a eu à être fait dans le temps. Peut-être que maintenant, pour une meilleure efficacité, il faut aller directement vers l'Afrique au lieu de passer par d'autres personnes.
D'accord, je vois, merci beaucoup. Et la Russie est un des plus grands producteurs d'engrais et aussi de céréales en Afrique. Les sanctions occidentales imposées à Moscou ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et les règlements financiers. Et comment cela-t-il affecté les pays africains et quelles sont les prévisions?
Oui, moi je pense déjà que ces sanctions-là qui ont été adressées à la Russie, en réalité sont adressées à l'Afrique. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, une très belle ville. Nous pensons que les sanctions n'ont pas... Je le dis avec ce que je vois, n'ont pas vraiment d'effet sur la Russie, mais ont beaucoup plus d'effet sur l'Afrique. Aujourd'hui, quand on comprend qu'il y avait un accord dans le céréal pour pouvoir quand même libérer ces céréales-là, même qu'elles sont dans une zone en conflit, ces céréales-là n'arrivent pas à l'Afrique. On a vu qu'il y a à peine 3% de tout ce qui a été libéré qui est arrivé en Afrique, alors que nous sommes un continent où nous avons quand même presque 2 milliards de personnes. Donc, à mon avis, ces sanctions-là, effectivement, nous ont beaucoup affectés. Maintenant, l'autre question, c'était concernant...
C'était quelles sont les prévisions, à votre avis, de cette situation dans le contexte actuel?
Oui, nous pensons, nous, en Afrique en tout cas, nous pensons qu'il faut vraiment et réellement trouver une solution pacifique à ce problème-là et de façon à ce qu'on puisse collaborer tout un chacun dans le bien-être de tout le monde. Nous n'avons pas besoin, quand il y a des conflits de ce style-là, je pense qu'il y a des instances mondiales qui peuvent s'occuper de ce genre de choses, de problèmes-là. Je veux parler de l'ONU, etc. Entre pays, nous devons mieux collaborer. Nous devons plus collaborer et de façon plus directe. Nous sommes ouverts avec tous les partenaires, notamment la Russie, qui est un partenaire historique. Moi, j'ai eu à apprendre plein de choses que je ne connaissais pas, que j'ai vu, que j'ai découvert ici. Le partenariat Russie-Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas, on va dire, depuis la crise. Il date de beaucoup plus longtemps que cela. Et nous, jeunes Africains, on a vu, on a compris pas mal de choses. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut régler les problèmes. D'une part, mais il faut aller aussi vers un développement multipolaire de toutes les relations mondiales. Nous n'avons pas besoin d'être scotchés ou collés à une seule personne. Nous pouvons être ouverts, disponibles et travailler avec tout le monde.
D'accord, je vois. Merci. Merci pour votre réponse. Et selon l'ONU, pas un seul navire transportant des engrais russes n'a quitté les ports russes pendant l'accord céréal. Même les engrais que la Russie est prête à fournir gratuitement ont été bloqués dans les ports occidentaux. Et comment pouvez-vous expliquer cela et quelles solutions peut-il y avoir, à votre avis?
Déjà, c'est incompréhensible que quelqu'un veuille donner quelque chose et qu'on l'en empêche. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ce soit les produits, que ce soit les céréales, les engrais. Nous ne comprenons pas pourquoi cela est bloqué, en fait. Nous n'avons aucun problème ni avec la Russie, ni avec les autres parties. Donc, pourquoi bloquer des produits qui sont destinés aux Africains? Nous ne comprenons pas. Nous, en Afrique, nous ne comprenons pas du tout. On essaie de s'expliquer cela, mais on n'arrive pas à comprendre. Il y a un produit qui est disponible, qui est bloqué dans un port autre qu'africain. Pourquoi? Nous n'avons pas de réponse. Donc, c'est pour ça que nous expliquons pas un certain nombre de choses. Et c'est la raison même pour laquelle nous venons ici, pour comprendre directement ce qui se passe. Et on a vu qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement de la Russie. Le vœu de la Russie, c'est de un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Et nous sommes prêts aussi pour ça.
Et la Russie a annoncé en fait qu'elle reviendrait à l'accord sur les céréales si les obstacles pour les livraisons de céréales d'engrais russes sur les marchés mondiaux sont levés. Êtes-vous intéressé à reprendre ce format?
Nous n'avons jamais arrêté. Mm-hmm. Nous n'avons jamais arrêté de collaborer avec la Russie. Et ce que M. Poutine propose va dans le développement des affaires qui se font déjà. Aujourd'hui, si effectivement on arrive à enlever ces barrières-là, nous allons simplement continuer ce qu'on a toujours fait avec la Russie, c'est-à-dire collaborer dans un esprit gagnant-gagnant.
D'accord, je vois. Et compte tenu du fait que les avantages pour les pays africains de cet accord étaient minimes, peut-on envisager un autre format de livraison, si ce n'est pas un accord céréal, par exemple?
Nous pensons que plus il y a une collaboration directe entre les parties, c'est-à-dire par exemple entre la Russie, entre les entreprises russes, les entreprises du secteur le privé russe et les entreprises privées africaines et même les entreprises publiques, plus il y a de collaboration directe, mieux nous pouvons percevoir les résultats. Parce qu'au niveau des États, parfois c'est très lourd, parfois ça prend beaucoup de temps parce que c'est des États, c'est toute une organisation. Mais dans le privé, on sait aller vite, on sait aller rapidement sur des questions d'intérêt commun. Donc nous pensons quand même qu'à ce niveau-là, peut-être que la collaboration entre le privé devrait beaucoup s'accentuer et nous sommes heureux de voir que nous avons tous les grands producteurs de grains, tous les grands producteurs d'engrais qui sont présents, avec qui on a pu discuter en direct et de façon, on va dire, transparente.
Et en 2023, la Russie a signé plus de 750 contrats d'exportation de produits agro-industriels en monnaie nationale, y compris avec des pays africains. Et comment voyez-vous les perspectives et les avantages de ce format de règlement?
Nous ne voyons aucun inconvénient aujourd'hui à, on va dire, commercer avec un partenaire, avec n'importe quelle devise. Que ce soit du rouble, du yuan, pourquoi pas? Nous n'avons aucun problème. Nous, en Afrique, on est ouvert. Nous ne sommes pas bien lotis. Donc, pourquoi se fermer la porte à des opportunités de ce style-là où on peut peut-être nous permettre même de réduire les prix d'achat? Parce que si on arrive à avoir des taux de change qui sont un peu plus intéressants avec le rouble, le yuan ou d'autres monnaies, et qu'on arrive à accéder à l'achat de ces produits-là, je pense qu'en Afrique, vous allez trouver beaucoup plus d'opportunités, d'ailleurs même qu'il n'y paraît.
D'accord, je vous remercie. Et selon un responsable de la FAO, dans le domaine de la sécurité alimentaire, la dépendance des pays en développement des anciennes métropoles reste très forte et est une conséquence du colonialisme. Aujourd'hui, les pays africains commencent de plus en plus à penser à leur propre développement national. Que faut-il pour surmonter cette dépendance dans le domaine alimentaire, à votre avis?
Alors, nous, jeunes Africains, ce que nous pensons, ce que nous voulons, c'est de nous permettre de collaborer avec toute personne qui puisse nous apporter quelque chose de valeureux, une valeur ajoutée. Aujourd'hui, M. Poutine l'a dit, je pense que la Russie, c'est plus de 150 millions de tonnes de céréales produites. Nous avons besoin de ce genre de technologie-là. Nous voulons savoir comment la Russie fait pour produire autant de blé, comment la Russie fait pour produire autant de grains, etc. Et en parallèle, le proposer à nos populations. Nous ne l'avons pas eu depuis. Nous sommes indépendants depuis 1960. Nous sommes nés bien après les indépendances. Mais je pense qu'entre 1960 à 2023, rien n'a changé. Et donc, nous voulons un changement. Nous voulons évoluer. Nous voulons nous développer comme toutes les nations dans ce monde-là. Et nous voulons aussi surtout qu'on ne nous empêche pas d'aller vers les partenaires qui veulent nous aider à nous développer. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est un sentiment africain qui est là, qui ne naît pas, qui existait depuis très longtemps, que nous avons trouvé déjà présent sur le terrain. Il n'y a rien de nouveau que nous sommes venus créer. Je le disais tout à l'heure, la Russie nous assiste l'Afrique depuis très longtemps. Sous Mandela, sous Nyerere, on a compris des histoires comme quoi la Russie a vraiment essayé quand même de collaborer avec l'Afrique pour qu'elle puisse départir du colonialisme. Et comme je le répète encore une fois, nous en Afrique, nous cherchons des solutions. Nous n'avons plus besoin de discours, nous n'avons plus besoin de qu'on nous dise que voilà, il nous faut tel modèle ou pas. Laissez-nous choisir nos modèles, laissez-nous voir avec qui on veut travailler et la porte est ouverte à tout le monde. Voilà.
Et comment la Russie peut-elle aider les pays africains à développer leur infrastructure agricole et à renforcer leur souveraineté alimentaire?
Je pense que si je parle de transfert de technologie, ça ne suffit pas. Non seulement il faut un accompagnement, parce que vous avez de la technologie agricole que nous n'avons pas, que ce soit au niveau des machines, que ce soit au niveau des pratiques agricoles et même au niveau même des engrais, l'accès aux intrants agricoles à moindre coût. Tous ces éléments-là mis ensemble peuvent nous aider à avoir une bonne production et à apprendre mieux de la Russie. Et c'est ce qu'il nous faut en fait. Nous sommes du domaine agricole, nous savons que il ne s'agit pas simplement de planter et d'arroser. Il y a toute une technicité qui est derrière, alors que nous en Afrique, on a gardé les mêmes pratiques qu'il y a 50 ans, qu'il y a 60 ans. Maintenant, il nous faut de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques agricoles avec les nouvelles technologies, avec la machine, etc. Et ça, la Russie peut nous apporter cela. Et c'est ce qu'elle a toujours fait d'ailleurs. Nous avons plein, dans nos familles, nous avons plein de parents qui ont appris, qui sont venus en Russie à l'époque, qui ont appris dans les domaines de l'hydrologie, qui ont appris dans les domaines de l'électricité, etc. Donc, c'est de former encore plus de personnes à ces bonnes pratiques agricoles-là et revenir en Afrique et développer ces choses-là ensemble. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ensemble, avec la Russie, on peut faire de belles choses.
D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses, votre vision et l'avoir partagé avec nous.
C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.
C'était Malik Niang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la fin de l'accord céréalier et a proposé des pistes pour une nouvelle coopération internationale dans un contexte d'émergence de monde multipolaire. Quelques jours se sont écoulés depuis la fin du sommet Russie-Afrique, mais Moscou commence déjà à mettre en œuvre les déclarations faites et les accords conclus. La mission de l'organisation Dialogue-Russie, qui réunit des entrepreneurs russes, se trouve actuellement en Zambie, où s'est ouvert le salon annuel de l'agriculture et du commerce, Agriculture and Commercial Show. Achot Danielian, responsable de cette organisation qui est chargée des relations avec la Zambie, a exposé au micro de Sputnik Afrique quelles technologies russes aideront l'Afrique à assurer sa sécurité alimentaire. Monsieur Danielian, pourquoi avez-vous participé à cet événement? Qu'attendent votre organisation et les entreprises russes?
Le thème de l'Afrique est actuellement à l'ordre du jour. C'est pourquoi notre organisation Delovaya Russia a pris une part active au sommet Russie-Afrique et était représentée dans de nombreuses sections. Nos intervenants, nos modérateurs y ont travaillé. Nous avons tenu de nombreuses réunions en marge du sommet et avons conclu un certain nombre d'accords. Quant à cet événement, qui se déroule en Zambie, il s'agit en quelque sorte d'une continuation de ce sommet. Cette exposition est l'une des plus importantes en Zambie. Elle nous a intéressés et nous avons décidé d'y exposer un stand collectif sous la marque Open Africa. Il y a ici des entreprises qui sont membres de notre organisation, mais elles ne sont pas les seules sociétés russes à être représentées à l'exposition. En outre, nous représentons virtuellement les entrepreneurs russes qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Actuellement, une société métallurgique, des sociétés agricoles et une société qui produit des désinfectants sont représentées ici. Des entreprises pharmaceutiques, des entreprises du secteur de l'énergie, des entreprises informatiques actives dans la gestion numérique et les technologies financières ont également manifesté leur intérêt pour cette exposition. Le spectre est très large, je ne peux même pas les citer tous. Nous avons programmé des réunions dans différents ministères pour présenter et discuter nos propositions. Certains d'entre eux manifestent déjà un vif intérêt. Nous avons reçu leur réaction avant et pendant le sommet. Dans l'ensemble, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup à faire. Nous ne sommes pas assez actifs en Afrique, tandis que les perspectives sont très prometteuses. La partie africaine est également intéressée par le fait de ne pas se contenter d'exporter des matières premières, des fruits et des légumes. Il existe un programme gouvernemental visant à augmenter la valeur ajoutée au niveau local, à lancer et à développer des usines de transformation. L'objectif est que les pays africains cessent de servir de base de matières premières et commencent à commercialiser des produits finis, d'abord entre eux, puis sur les marchés étrangers. Bien sûr, nos engrais suscitent toujours de l'intérêt, ainsi que d'autres domaines. J'espère qu'à l'issue du sommet Russie-Afrique, de cette exposition et des réunions que nous organisons, nous nous rapprocherons sensiblement de la mise en œuvre de mesures et de projets concrets entre les entreprises russes et zambiennes.
Quel savoir-faire russe dans le domaine de l'agriculture et des domaines connexes vous semble le plus prometteur en Afrique?
Si nous parlons d'agriculture, je dirais tout ce qui concerne l'industrie de transformation, de la production de saucisses à la transformation des fruits. En Zambie, par exemple, plus de 60% des fruits pourrissent et sont jetés parce qu'il n'y a aucun moyen de les stocker ou de les transformer. Grâce à l'une des entreprises russes présentes ici, une installation de production de fruits lyophilisés sera lancée dans un avenir proche, ce qui permettra d'exporter ces produits en Russie et dans d'autres pays. Cette technologie a été développée par une entreprise russe qui organise maintenant la production ici avec des partenaires locaux. Elle est en train de résoudre la question de la localisation de l'entreprise et de son enregistrement. Dès que l'équipement sera prêt en Russie, il sera transporté, assemblé et le processus commencera.
C'était Achot Danielian, chargé des relations avec la Zambie au sein de l'organisation russe Dialovaya Russia. Il nous a décrit des technologies russes qui pourraient aider l'Afrique à assurer sa sécurité alimentaire. « Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue. Le 1er août 1960, le Bénin a accédé à l'indépendance sous le nom de la République de Dahomey. En septembre de la même année, le pays obtient un siège à l'ONU. Deux mois plus tard, le 25 novembre 1960, la première constitution est approuvée par l'Assemblée constituante. En 1975, le pays a pris le nom de République populaire du Bénin. En 1962, les premières relations diplomatiques avec l'URSS ont été établies. Les relations sont devenues plus actives après 1972, suite à la prise de pouvoir de Mathieu Kérékou et de l'adoption du marxisme-léninisme deux ans plus tard. De nombreux accords de coopération entre le Bénin et l'URSS ont été signés dans les domaines économiques, des médias, de la culture, de la recherche géologique et dans l'aérien. Plus de 2500 Béninois ont fait leurs études en URSS et en Russie. Le point culminant de ces relations a eu lieu en 1986, lorsque Mathieu Kérékou s'est rendu à Moscou dans le cadre d'une visite officielle. Une déclaration de l'amitié et de la coopération a été signée à cette occasion. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Ebenezer Koré Sedegan, historien béninois, enseignant-chercheur et maître de conférences à l'université d'Abomey-Calavi, UAC, est revenu sur cette date historique et sur ce qui a changé pour les Béninois. Écoutons-le.
Il y a 63 ans, la République du Bénin a obtenu son indépendance. Comment cette date a changé la vie du peuple béninois et que signifie cette date pour vous?
Je pense que ça fait 63 ans que la République du Dahomey a accédé à l'indépendance, puisque le toponyme va changer en 1975 pour devenir République populaire du Bénin, parce qu'ils sont lourds. Et il y a un groupe de militaires qui a pris le pouvoir pour instaurer le régime militaro-marxiste qui a dirigé notre pays pendant 17 ans. Et c'est ce régime qui a entrepris des réformes, parce qu'il faut dire qu'au lendemain de l'indépendance, il y a eu une période d'instabilité politique marquée par des coups d'État. Des coups d'État qui ont favorisé, donc, disons, une léthargie totale donc, du pays. Cela a enfoncé dans le sous-développement. Alors, donc, les militaires ont entrepris des réformes et pour, disons, marquer une rupture avec l'ordre néocolonial instauré à la tête du pays à partir du 1er août 1960. Donc, à cette date, vous comprenez bien que avec les événements qui se sont produits à la suite donc, de la proclamation de l'indépendance, cela montre en suffisance que notre pays était loin d'être véritablement indépendant. Alors, donc, les militaires ont dit niet, ils ont changé de cap pour soustraire le pays au joug colonial français, au joug néocolonial français, pour se mettre sous l'orbite de l'Union soviétique, puisque nous étions en pleine guerre froide. Voilà. Donc, je pense que la date du 1er août 1960 ne marque pas totalement l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, parce que on remarque toujours une ingérence dans la gestion des affaires de notre pays, et aussi bien sur le plan politique et surtout sur le plan économique et financier, parce que ils nous ont permis, enfin, nous avons pu arracher le droit donc d'élire, de choisir nos dirigeants, de faire nos options, de faire nos choix. Mais sur le plan économique, nous continuons d'être, surexploités par l'Occident. Et surtout, nous continuons d'utiliser la monnaie que le colonisateur nous a imposée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, cela montre à suffisance que c'est vrai, nous sommes devenus indépendants, ils l'ont dit, mais nous continuons d'être liés par le colonisateur, surtout sur le plan économique et monétaire, etc. etc. Voilà. Donc, la date du 1er août 1960, à mon humble avis, n'a aucun sens, parce que cela ne marque que donc, les compromissions que l'élite dahoméenne de l'époque a pu faire avec l'ancien colonisateur pour, disons, continuer, pour permettre à ce dernier de continuer à avoir donc des mises sur nos ressources, sur la gestion de notre pays.
Et quelle est aujourd'hui l'image de la France au sein de la population béninoise, selon vous?
Avec tout ce qui se passe autour de nous, la situation au Mali, la situation au Burkina Faso, et très récemment, la situation de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Niger, n'ont fait que renforcer le sentiment anti-français au Bénin. Voyez-vous, il y a une admiration donc que l'on voue à ces militaires qui ont pu oser défaire les régimes démocratiques mis en place, parce que la situation sécuritaire ambiante en Afrique de l'Ouest et prédisposait donc à ce genre de situation. Donc, puisque les régimes civils n'arrivaient pas à prendre leurs responsabilités, je crois qu'il revenait à ces militaires de le faire pour que désormais donc, le peuple soit libéré donc, de ces guerres asymétriques qui ne sont que donc, des foyers de tension mettre à mal la cohésion et la quiétude des populations. Voilà, donc le sentiment anti-français est très bien développé au Bénin aussi, surtout dans les milieux intellectuels. Tout le monde est prêt à soutenir tout ce qui se passe de déplorable, parce que la France est pointée du doigt comme l'acteur du sous-développement donc, des pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup. Vous avez mentionné que la dépendance, surtout économique, persiste toujours sur le continent africain et dans votre pays en particulier. On dit que le système colonial, dans son sens classique, n'existe plus, mais tout ce que vous avez dit, ça s'inscrit dans la logique de néocolonialisme. Mais à votre avis, que faut-il faire pour mettre un terme à cette dépendance des pays africains vis-à-vis de l'Occident?
Je pense qu'il faut, il faut revoir les accords avec ces pays occidentaux, pour revoir les accords de coopération, pour revoir les accords diplomatiques. Et il faut aussi que l'élite dirigeante africaine prenne ses responsabilités et que désormais on lutte pour une véritable indépendance. Parce que cela a assez duré. Ça fait depuis 63 ans que nous sommes supposés indépendants, mais dans la pratique, on sent que nous ne sommes pas véritablement du moins dans le domaine économique et financier. Voilà. Donc, il faut vraiment un engagement, un succès patriotique. Il faut que les pays qui ont pris conscience de la situation de dépendance et prennent, disons, leurs responsabilités et mobilisent les masses, mobilisent toutes les composantes de la société pour, disons, amener l'Occident à revoir sa position, à revoir sa politique vis-à-vis de l'Afrique, à revoir sa politique vis-à-vis des peuples africains.
Dans le passé, l'Union soviétique a soutenu l'indépendance de, entre guillemets, jeunes États africains et a aidé à réaliser beaucoup de projets socio-économiques sur le continent, dont d'ailleurs les populations africaines se souviennent très bien. Aujourd'hui, la Russie moderne cherche à intensifier ses liens avec l'Afrique dans plusieurs domaines. À votre avis, à cette étape historique de développement du continent, quel rôle pourrait jouer la Russie dans le renforcement de la souveraineté africaine?
Je pense que la Russie doit d'abord tirer le son de sa coopération antérieure avec, les États africains pour mieux faire. Parce que c'est vrai, et là aussi, l'Union soviétique, par le passé, a soutenu les mouvements de libération nationale. Elle a aussi, soutenu des projets de développement, mais avec la chute de l'Union soviétique, tous ces projets de développement ont été simplement liquidés. Et puis, bon, nous sommes revenus sous l'influence des Occidentaux. Alors, cette fois-ci, je pense qu'il faut une analyse profonde de l'histoire pour pouvoir, opérer des bons choix, des choix qui aillent dans le sens véritablement de la libération, de l'indépendance des pays africains. Vous savez, nous sommes des pays vulnérables parce que nous ne sommes pas industrialisés. Alors donc, ce que je voudrais proposer à Laoussi, intensifie ses aides dans le sens de l'industrialisation donc des pays africains. C'est ça qui me semble assez important. Et puis, qu'il apporte des aides aussi dans le sens, dans le domaine de la sécurité et pour permettre aux pays africains d'enregistrer des progrès dans le sens du développement en toute quiétude et en toute sécurité.
C'était le docteur Ebenezer Koré Sédégane, historien béninois, enseignant-chercheur et maître de conférences à l'université d'Abomey Calavi USC pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur l'indépendance de son pays accordée le 1er août 1960 et ce qui a changé depuis pour les Béninois. Il a en outre abordé la question de la coopération avec la Russie qu'il souhaite voir s'intensifier dans le domaine de l'industrie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.